Conférence privée par le Père Philippe à Saint-Joseph, le 25 mars 1987.
C'est difficile, le soir de l'Annonciation, de regarder autre chose que le mystère d'Annonciation. Je crois. Et le Seigneur a voulu que, de fait aujourd'hui, puisque tout en étant, il prenait de fête, de grandes fêtes, une mise entre parenthèses du carême, ce soit quand même une journée de travail. Il y a eu quand même quelques cours. Bien signaler que le travail était présent. Cours de métaphysique, de théologie naturelle. Et au fond, on a vu que le mystère de l'Annonciation pouvait être regardé de multiples manières. Et en réfléchissant toujours à cette grande question qu'on a soulevée, et qu'il faut rester du reste dans cette grande question, les sens divers de l'Écriture, la manière dont l'Esprit Saint nous conduit au mystère, puisque c'est sûr que l'Esprit Saint a un désir très grand pour chacun d'entre nous, de nous révéler ce mystère. Nous avons lu le texte de Saint Luc combien de fois déjà? Moi, je ne compte pas, mais vous. Et au fond, on reste toujours un tout petit peu, comme dirait Catherine de Sienne à l'écorce. On a beau vouloir pénétrer, oui. Et je crois que ce serait intéressant en face de ce mystère qui, je crois, la source provient de Marie et de Jean. La source de Saint-Luc, je parle donc du texte de Saint Luc que nous avons lu à la grand-messe, ce texte si si merveilleux qui nous met en présence de cette reprise de tout, parce que c'est bien une reprise de tout, une sorte de recréation. C'est la recréation de la tête, la recréation de tous les membres, elle sera la croix. Mais si on est intelligent, c'est la recréation de la tête qui est intéressante. Pars principalis est totum. Et de reste, l'épître, la préface le dit. Hein. On est en face avec l'Annonciation, avec le mystère du Verbe devenu chair en Marie, de la recréation. Et cette recréation va produire tous ses fruits à la croix. Et ce sera notre recréation. Et ce sera aussi la recréation de Marie. Si j'ose dire, si elle était recréée, Jésus, au sens strict, c'est pas une recréation. C'est pour ça que c'est boiteux de dire ça. Nous, c'est une recréation, puisqu'on est repris à partir du péché. Nous sommes une matière corruptible, doublement corruptible. Corruptible au plan biologique et corruptible parce que marquée de la condamnation du péché et des conséquences du péché. Donc c'est une terre qui n'est plus très saine. scène. Des marées pleines de fièvre paludienne. Des jures et des tonnes de microbes cachés dans cette terre qui un jour ou l'autre apparaissent. Alors, la croix est une recréation pour Jésus, pour le mystère d'incarnation. On ne peut pas dire que c'est une recréation. On peut dire que c'est ce qui donne la signification ultime à toute la création. Alors là, oui. Et ce qui sera source d'une recréation. Avec Théard, on dirait que c'est le terme oméga. Si Adam est alpha, c'est le terme oméga qui est au point de départ. Tout le reste, et c'est vrai, c'est le terme. C'est au fond, dans la lumière, pour nous chrétiens. Pour nous chrétiens, c'est dans la lumière du mystère de l'incarnation. Telle qu'elle s'est réalisée en Marie, de cette manière si cachée, si simple. Aucun témoin, c'est admirable ça, Dieu qui veut que Marie soit seule, c'est farouche. Même Joseph, qui pourtant est l'ami de son cœur, même Joseph, si tu avais averti Marie en lui demandant « Est-ce que tu préfères être seul ou est-ce que tu préfères que Joseph soit là ?» Tu aurais pu faire ça, n'est-ce pas ? Demander à Marie ce qu'elle aurait préféré. Je crois que Marie, fiancée à Joseph, aurait quand même dit « Il vaut mieux que Joseph soit là parce que ça lui ferait de la peine de ne pas être là. » Je crois que c'est ce que Marie aurait dit. Montez-lui, je suis persuadé qu'elle aurait dit ça. Étant donné la délicatesse extraordinaire de Marie. Oh non, ça lui ferait de la peine, il doit être là. Vous comprenez, c'est quand même important. Une apparition. Une annonciation. Vous voyez ça, quand on annonce les apparitions, tout le monde court. Et Marie aurait averti, je vous avais dit, oui, l'ange Gabriel. Dit qu'il viendrait ce soir. Il m'a averti, il viendrait ce soir, à telle heure. Et il est exact. Il m'a averti qu'il viendrait. Mais Marie aurait averti Joseph. Elle a dit, ah, c'est bien évident, hein, c'est inscrit entre nous deux. Il ne dira personne. Elle aurait averti Joseph. Et Marie, heureusement que tu ne lui as pas demandé conseil. Pas par rapport à Joseph, parce que... Mais pour nous faire comprendre mieux ce qu'est Dieu. Parce que je crois que ça, c'est... Ça nous fait comprendre la grandeur de Dieu. Et l'amour ineffable qu'il a pour sa petite enfant. Il la veut seule. Quand on aime beaucoup quelqu'un, on veut qu'il soit seul. C'est bien évident. Même s'il y a un ami très très cher, très intime, l'amour de Dieu pour Marie n'est pas le même que l'amour de Dieu pour Joseph. Et Dieu veut qu'elle soit seule. Vous allez dire, il y a l'ange. Donc c'est pas juste... Du côté de Dieu, Dieu s'est servi de l'ange, et du côté de Marie, il n'a pas pris Joseph. Alors que s'il prend l'ange, lui, il devrait dire à Marie, prendre Joseph. Alors comme ça, serait équilibré. Alors, il faut bien comprendre, l'ange, c'est un pur contemplatif. Joseph n'est pas un pur contemplatif. À la fin de sa vie, il l'a été. Mais, quand Marie l'a connu, c'est pas un pur contemplatif. Alors, quelqu'un qui n'est pas un pur contemplatif, il fait nombre. Tandis petite ange ne fait pas nombre. C'est ça qui est très extraordinaire. L'ange ne gêne en rien. Il permet au contraire à Marie d'être plus libre. Et ça, c'est très important. Quand vous avez aujourd'hui des exégètes ou des théologiens qui ne veulent pas accepter l'ange Gabriel, parce que ça arrive, vous n'avez qu'à leur répondre cet argument. Ah, je croyais que vous pensiez que la liberté, c'était une chose très importante. Et là, ils sont piqués à vif, au vif. Parce que c'est évident, ça fait pas partie des délicatesses de Dieu. Pour que Marie soit plus libre, c'est le grand argument qu'on doit donner. Le reste, c'est des faux arguments, mais celui-là, c'est un argument merveilleux. Il va tout de suite au cœur et monte la délicatesse de Dieu. Ce qui prouve que les exégètes sont beaucoup moins délicats que Dieu. Parce qu'ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris que Dieu voulait que Marie soit tout à fait libre. Et que l'ange, ne faisant pas nombre avec Dieu, voile Dieu. Il voit la présence de Dieu. Il permet donc à Marie d'être plus libre. C'est vrai que ce mystère de l'Annonciation est un mystère qui transforme toute l'histoire de l'humanité, qui donne à toute la création, notre création, la création de notre univers, un sens nouveau. C'est prodigieux. Vous voyez, si l'apparition d'Adam et Ève est quelque chose d'aussi important pour nous, c'est le point de départ. Tandis que là, vous êtes en face du sommet. C'est le point de départ dans l'ordre de la perfection. Vous voyez comme c'est important de bien distinguer le premier dans l'ordre génétique et le premier dans l'ordre de nature. Le Saint-Esprit lui-même respecte ça. C'est l'apparition dans notre univers du nouvel Adam. Et c'est pas pour rien qu'on dit le nouvel Adam. Celui qui va tout reprendre parce qu'il vient comme bête de toute l'humanité. Il est le roi de l'humanité dès son incarnation. Et il a la plénitude de grâce tout de suite, dès le point de départ. Et donc il est bien la bête de tout ce qui viendra ensuite. C'est donc bien le sommet qui est un nouveau point de départ. C'est un point de départ pour Jésus, c'est sûr. C'est son entrée dans le monde, comme dit saint Thomas. Ça, c'est la vision du théologien. C'est tellement beau. L'entrée du Verbe de Dieu dans notre univers. L'entrée du Verbe qui s'incarne. Il entre parce qu'il y a de plus précieux dans notre univers. Il entre par Marie. La porte d'or, c'est bien Marie. Il entre par Marie dans notre univers. Il se donne à nous par Marie. Oui, je crois que ce soir, nous devons essayer de demander à Dieu le Père d'avoir son regard sur Marie. Il nous le permet, puisque par la foi, on peut avoir le regard du Père sur Marie. Puisque nous disons « Je vous salue Marie, pleine de grâce », nous avons donc le regard de l'ange sur Marie. Chaque fois que vous dites « Je vous salue Marie », vous le dites consciemment. Vous le dites à la place de Gabriel. Et Gabriel permet que vous le répétiez, sans avoir aucun droit d'auteur. Il vous le permet de le répéter. Il vous le répétez indéfiniment. Et le regard de Gabriel sur Marie se continue à travers chacun d'entre nous. Et le regard de Gabriel, c'est le regard de l'envoyé. l'envoyé par excellence. C'est le regard du Père. Voyez, le sens littéral de la parole de l'ange à Marie. Est-ce que c'est ce que l'ange pense, ou est-ce que c'est le Père qui pense à travers Marie ? Se poser la question, et c'est même important de se poser la question. Le sens littéral de ces paroles, je vous salue Marie, pleine de grâce, quand vous les dites, est-ce que c'est le regard de l'ange sur Marie, ou est-ce qu'à travers l'ange, c'est le regard du Père? Je crois que c'est le regard du Père sur Marie. Salut Marie, en se servant de l'ange, et c'est le Père qui salue Marie, et c'est ça qui est de si merveilleux, c'est que le Père salue sa petite enfant, et la salue à travers l'ange. Saluer, c'est laisser passer devant. Je crois que c'est ça, saluer quelqu'un. C'est le laisser passer devant. C'est pour ça que c'est tellement plus grand de dire je vous salue, que réjouis-toi. Aujourd'hui, il faut le dire, puisque c'est l'Annonciation. Je vous l'ai déjà dit, certains. J'en ai parlé longuement au Père. Feuillet. Parce que je voulais en avoir le cœur net. Je voulais pas. Vous voyez, parce qu'on l'a toujours dit. Restez pas dans le toujours dit. Je voulais avoir l'avis de quelqu'un comme le Père Feuillet. Et je lui demandais, lui dit, dites-moi, hein, franchement, qu'il n'y ait pas d'anciens et de nouveaux, dites-moi, vous. Alors, il a pris un air grave. Quand le Père Feuillet prend un air grave, c'est très particulier. Parce qu'il y a le sulpicien derrière, alors, monsieur Ollier, c'est un air grave, c'est monsieur. Elle retrouve quelque chose de très grave. Plein de gentillesse, mais grave. Le Père Feuillet peut être très grave. Il a pris un air très grave. Il a dit, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Quand j'ai entendu ces nouvelles traductions, j'ai regardé de nouveau le texte. Puis alors, il m'a donné un tas de détails que je vous répète pas, parce que partie d'un contexte particulier du Père Feuillet, mais qui est très très beau, qui est magnifique. Et il m'a dit, on doit dire je vous salue. Alors je dis, mais pourquoi? Oui, on doit dire je vous salue. Je le dis en tant qu'exégète. Tout à fait juste, dis réjouis-toi. Oui, oui, on peut le dire, c'est sûr, c'est pas un contresens. Et c'est plus profond, dire je vous salue. Alors j'ai essayé de lui dire la salutation, Père, au plan théologique, qu'est-ce que c'est? Ah, mais dis, ça c'est vous à le dire, c'est le théologien. Parce qu'il est comme ça, le Père Feuillet. Il est serviteur, et quand il est en face d'un théologien, il me considère comme théologien. Alors il me dit, c'est vous. Alors, je dis la salutation. Quand on salue quelqu'un, on le laisse passer devant. Ça fait partie de ces mœurs extraordinaires de la très sainte Trinité. Le Père qui fait passer devant le Fils et le Père qui laisse passer devant l'Esprit Saint. Les effacements de Dieu, qui sont, je crois, non pas l'humilité de Dieu, mais le mystère de l'amour. Quand on aime, on s'efface, celui qu'on aime. On voudrait s'effacer, on ne peut pas le faire toujours, mais on voudrait s'effacer. Alors saluer quelqu'un, c'est le laisser passer devant. Vous comprenez que c'est beaucoup plus grand de la part du Père de dire à sa petite créature, je vous salue, que de lui dire, réjouis-toi. la même chose, j'avoue. Quand le Père dit « Je vous salue », c'est le Père qui s'efface devant Marie. Mais c'est prodigieux, ça. Ça fait découvrir ce qu'est l'amour du Père. Tandis que réjouis-toi. Oui, c'est très joyeux. C'est très joyeux, mais ça n'a pas la même dignité, ça n'a pas la même grandeur. Les hommes diminuent toujours la parole de Dieu. Faut pas l'oublier. On démocratise. Fait que saluer, c'est pas très démocrate. En laissant passer devant, oui. Il n'y a que les rois qui savent saluer. Il n'y a que les rois qui savent saluer. De façon étonnante. Saint Louis saluait admirablement quand il a salué saint Thomas. Le Père qui salue sa petite enfant, il la salue d'autant plus. Il la salue à travers l'ange. C'est encore plus beau. Pour la laisser passer devant. Marie n'aurait jamais osé passer devant le Père. C'est bien évident. C'est impossible. C'est impossible. Marie aurait dit, mais non, non. C'est pour ça qu'elle est toute troublée. Elle est toute troublée. Je comprends très bien qu'elle soit toute troublée. Tandis que si c'est simplement réjouis-toi, elle n'est pas troublée. On n'est pas troublé quand quelqu'un vous dit « Réjouis-toi ». Au contraire, on est très heureux. Tandis que laissez passer devant. Je vous dis ça, c'est parce que c'est quand même important aujourd'hui. C'est important, on salue tout le temps la Très Sainte Vierge. Pourquoi pas garder cette grandeur. Et je vous salue, Marie. Ça n'empêche pas, si vous êtes fatigué, de dire « Réjouis-toi ». Ça n'empêche pas. Mais si vous mettez dans la lumière du Père, c'est-à-dire une lumière contemplative. Entrez dans cette dignité. Le Père qui laisse passer devant Marie. Mais ça, c'est extraordinaire. Alors on comprend Marie divine. Marie sait bien que l'ange vient de la part du Père. Elle est suffisamment intelligente. Et elle a suffisamment... Le don d'intelligence, et le don d'intelligence, vous savez bien, il est fait pour ça. Pour comprendre tout de suite, au-delà de l'envoyé, celui qui envoie. Ça, c'est le problème du don d'intelligence. Celui qui a le don d'intelligence découvre tout de suite, au-delà de celui qui est envoyé, celui qui envoie. Et il ne s'arrête pas à celui qui est envoyé. Il s'arrête tout de suite à celui qui envoie. Et donc Marie reçoit ça comme une salutation du Père. Alors elle est toute troublée. Et je comprends. Elle est toute troublée de voir le Père qui s'efface devant elle. Je vous salue, pleine de grâce. Le Père qui s'efface devant sa petite enfant pour la laisser passer devant. Pour lui montrer tout son amour. Et la gratuité de son amour et montrer que la petite créature, parce qu'elle est aimée de Dieu, Dieu peut s'effacer devant elle. C'est ça le mystère de la grâce. Vous voyez, qui nous est révélé par cette salutation. C'est vrai, pour comprendre la grâce, il faut regarder la plénitude de grâce de Marie. C'est la seule manière de comprendre le mystère de la grâce, c'est de regarder la plénitude de grâce de Marie. Si vous regardez les conclusions de saint Thomas, non, c'est très bien les conclusions de saint Thomas, je les aime beaucoup. Mais j'aime mieux regarder la plénitude de grâce de Marie. Et quand j'essaie de regarder le mystère de la grâce, je reviens toujours à la plénitude de grâce de Marie. C'est là qu'on comprend ce que c'est que la grâce. Et alors, c'est d'autant plus grand quand vous voyez que cette plénitude de grâce est illuminée par la salutation du Père. Alors là, vous comprenez que la grâce doit toujours être vue dans la salutation du Père. Chaque fois que le Père nous communique la grâce, il nous salue en nous faisant passer devant. C'est inouï, ça. Alors là, vous voyez, c'est tout. mystère de la grâce qui prend cette dimension. C'est vrai, c'est la révélation de la grandeur de la grâce, l'annonciation. C'est ça qui est impliqué dedans. Je vous salue pleine de grâce. C'est magnifique. On pourrait revenir une fois, mais ce que Dieu salue, ce que le Père salue, hein, c'est la personne de Marie. Voyez, pour la réflexion métaphysique de la personne, hein, en dernier lieu, c'est là où on comprend ce que c'est que la personne. L'effort philosophique, mais il faut dépasser cet effort si on est chrétien et voir le premier moment où l'on nous montre Marie dans le regard du Père, c'est l'Annonciation. Le Père la regarde comme une personne ayant sa dignité. Dieu ne peut pas faire passer devant lui. Le Père ne peut pas faire passer devant lui une chose. Un animal, non. On salue une personne. C'est une personne qu'on salue. Et c'est vrai, c'est une personne qu'on salue. Et on l'a, pour bien lui faire comprendre toute sa grandeur, on la fait passer devant. Et cette personne, elle est revêtue de cette plénitude de l'amour, pleine de grâce. Ça, il faudra comprendre, on essaiera de voir ça, en dernier lieu, la personne de Marie. Oui, ça, quel traité magnifique. Je ne crois pas que ça a été fait. La personne de Marie. Marie. Regardé par le Père. Comment le Père regarde sa petite enfant bien-aimée. Sa toute petite enfant bien-aimée. Et c'est ce regard du Père qui nous est donné avec l'Annonciation. Et c'est ce regard du Père sur Marie qui pèse sur Marie. Ça a un poids, le regard d'un Père sur sa petite enfant. Un poids d'amour. C'est pour ça que l'amour est un poids. Parce que c'est le regard du Père sur sa petite enfant. Et qu'il fait comprendre combien il l'aime. Combien il l'enveloppe de son affection, de sa tendresse, de sa force. Il l'avait passé devant. Il faut cela pour ensuite lui dire le grand secret qu'elle sera la mère de son fils, la mère de celui qui est son fils bien-aimé, la mère du fils du Très-Haut. Je crois que c'est important pour nous, voyez, ce soir, de supplier l'Esprit Saint de nous donner ce regard sur Marie, le regard du Père, sur celle que le Père salue, pleine de grâce, la plénitude, et j'aime encore mieux dire plénitude qu'au comblé. Voyez pourquoi, c'est plus objectif. Combler, c'est subjectif. C'est curieux, hein, comme on traduit toujours dans la subjectivité aujourd'hui. Le salut, c'est objectif. Plénitude, c'est objectif. Réjouis-toi, c'est subjectif. Combler de grâce, c'est subjectif. C'est curieux, hein. Il faut saisir ces choses-là. C'est important. Il ne faut pas les rejeter, non. pense être intransigeant, n'est-ce pas ? Puisque la personne est au-delà de l'objectivité, la subjectivité, elle implique les deux. Alors on peut d'une certaine manière prendre les deux. Mais il y a quelque chose de plus. La plénitude de grâce, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui mesure la plénitude. Tandis que comblé, c'est la créature. C'est la cause matérielle. Tandis que la plénitude, c'est la finalité. La plénitude de grâce, c'est justement parce qu'on est conjoint à la fin. Alors on est en plénitude de grâce. Marie va pouvoir grandir dans la grâce. Mais déjà, dès cet instant, elle est conjointe à sa fin. Et on le montrera bien, puisqu'elle deviendra la mère de Dieu. C'est important pour nous de saisir ce regard du Père sur sa petite enfant à travers le message de l'ange. Et voyez, je reviens à la question que je posais tout à l'heure. Le sens littéral propre du message de l'ange, est-ce que c'est l'envoyé ou celui qui envoie? Si le don d'intelligence est fait pour que la foi aille jusqu'au bout de sa pénétration, et que le propre du don d'intelligence, c'est de ne jamais s'arrêter à l'instrument et de remonter de l'instrument à la cause principale, de ne jamais s'arrêter à l'envoyer, mais de découvrir celui qui envoie. Voyez tout de suite ce que fait le don d'intelligence. Le don d'intelligence permet, au-delà d'un sens immédiat, de découvrir le sens profond. L'intention du Père. Ça va très loin tout ça, si on essaie de comprendre. Et je crois que c'est ce qu'on doit demander à la très sainte Vierge, on se met à l'école de Marie quand même. Moi, j'aimerais bien que la Sainte Vierge nous enseigne le sens littéral, le sens mystique. C'est bien dommage que je n'ai pas posé la question à Marthe. Hein. J'aurais eu une réponse fulgurante. Je la prévois déjà. Comme si j'avais posé la question à Marie. C'est vrai, ces questions-là. Partirez, oui, ces questions. Vous discutez entre sages. Moi, je vis. Et quand on vit pleinement de la foi contemplative et donc du don d'intelligence. Mais ça n'enlève pas le mode humain de la foi. Pas du tout. Et le mode humain de la foi ne doit pas supprimer le mode divin de la foi. Et le mode divin de la foi est selon l'ordre de nature premier. Et selon l'ordre génétique second. Il faut prendre ces petites clés, hein. C'est très important de bien comprendre cela. Parce que c'est tellement important le mystère de l'Annonciation. On peut y réfléchir toute sa vie. Et on peut résumer toute l'écriture. L'Annonciation, la croix. Ce que le Père de Haut aimait toujours beaucoup, mettre en parallèle, hein, les deux grandes annonciations. L'Annonciation de la maternité divine de Marie à l'égard de Jésus. L'Annonciation de la maternité divine de Marie à l'égard de l'Église. Et ces deux annonciations se tiennent comme le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption. Ça se tient. Et c'est inséparable. Il y a un ordre essentiel entre les deux. Et donc l'un fait comprendre l'autre. L'un est plus grand dans l'ordre de la dignité et l'autre est plus grand dans l'ordre de la finalité. C'est les rapports que saint Thomas fait entre l'être et le bien, c'est curieux. Le mystère de l'Annonciation qui nous met en présence de la maternité divine de Marie à l'égard de Jésus. Au point de vue de la dignité, rien n'est plus grand. Mais il est ordonné au mystère de la croix. Et au point de vue de la finalité, c'est la croix, c'est la rédemption. Les deux se tiennent, ne séparons pas ce que Dieu a lui dit. Mais il faut respecter cet ordre. Et c'est important de bien le comprendre et de bien le saisir. Je crois qu'on est au point de vue de la dignité, donc au point de vue de l'intelligence. On est en présence d'un mystère auquel il faut tout le temps venir, étant donné sa grandeur, étant donné que vraiment c'est à partir du mystère d'Annonciation qu'il y a quelque chose de tout à fait nouveau dans l'univers. La petite grotte de Nazareth. Je sais qu'il y avait quelqu'un aujourd'hui qui était là-bas et qui priait pour nous. Qui était de Nazareth aujourd'hui. Et qui priait explicitement pour nous. C'est bien. Ça fait partie de ces antennes mystérieuses et divines qu'on découvrira dans le ciel. On a besoin de ça, on a besoin. Mais la petite grotte de Nazareth. À se détruire, c'est un petit signe. Jusque-là, elle était restée intacte. Maintenant qu'on l'a mis à l'air, elle commence à se détruire. Il faut faire attention. Pour combien de temps ça durera? Jusqu'au retour du Christ. Alors, si c'est un sommet au point de vue de la dignité, vous comprenez l'importance pour comprendre. Tout le mystère de la théologie, tout le mystère de l'homme dans la vision de Dieu. Alors je voudrais simplement rappeler, parce que je crois que ce soir nous y pensons tous, à la première Annonciation. On aime tous aussi beaucoup, mais c'est tellement différent. Quand vous avez la première Annonciation, il y a la vocation d'Abraham. Yahvé dit à Abraham. Je trouve ça tellement extraordinaire. C'est presque un fait divers. Jusque-là, on est dans le mystère de la préhistoire. Notre histoire. Notre histoire. Notre histoire sainte. Commence, chapitre 12 de la Genèse. Yahvé dit à Abraham, va dans ton pays, de ta parenté, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je te ferai devenir une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et qui t'outragera, je le maudirai. Par toi se béniront toutes les familles de la terre. Dieu dit à Abraham, Dieu s'adresse à une personne. Abraham. C'est une personne, Abraham. Il s'adresse à Abraham directement pour qu'Abraham l'écoute. Et lui dit quelque chose de très précis. Et Abraham reçoit ça dans sa foi. Et voyez la simplicité avec laquelle Dieu intervient. Alors évidemment, Dieu dit, comment dit-il à Abraham? Est-ce que Dieu est apparu? Ou est-ce que c'est une illumination intérieure? La foi, on ne dit pas. Va-t'en de ton pays. c'est une foi liée à l'obéissance, à une entrée au noviciat. Hein, qu'à te le dire. Va-t'en de ton pays, de ta parenté, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. C'est toujours comme ça. On quitte. C'est très curieux. Il y a une rupture. C'est le point de départ du mystère de la foi. Quand vous regardez non plus la vocation d'Abraham, mais alors la grande apparition, chapitre 18. Yahvé apparu à Abraham, à la chaînée de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente, en pleine chaleur du jour. Il somnolait. Hein. La méridienne, en pleine chaleur du jour. La méridienne des hommes, on voit très bien, tandis que la femme est à la cuisine. Ayant levé les yeux, voilà qu'il vit trois hommes debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à l'entrée de la tente, à leur rencontre. Et se prosternant à terre, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je t'en prie, ne passe pas loin de ton serviteur. Qu'on apporte un peu d'eau. Lavez-vous les pieds. Vous voyez, c'est très curieux. C'est tout de suite une liturgie. Tout de suite une liturgie. Regardez, vocation, chapitre 12, 18, c'est une liturgie. Abraham veut l'hospitalité. C'est trois. Et c'est la liturgie de l'hospitalité. C'est bien la liturgie de l'hospitalité qui est là. Abraham se précipite au devant à leur rencontre. Et c'est lui qui prend l'initiative. Évidemment, les trois sont passés là selon leur initiative. Mais c'est lui qui prend l'initiative. Puisqu'il se prosterne à terre. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je t'en prie, ne passe pas loin de ton serviteur. Qu'on apporte un peu d'eau, lavez-vous les pieds, puis étendez-vous sous l'arbre. Je vais prendre un morceau de pain, réconforter votre cœur. Ensuite, vous passerez plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. Il dit, fais ainsi que tu as dit. Abraham se hâta vers la tente, et ainsi de suite. Les trois. Regardez Marie. C'est la Trinité qui vient habiter en elle. Et la Trinité se cache derrière l'ange. Quand même très extraordinaire, ça. Parce que Abraham, c'est très très grand, mais c'est le point de départ. Marie, dans l'Annonciation, c'est le sommet. Confondons pas. Sont liés. Ça, c'est aussi très, très particulier. Parce que c'est Dieu qui l'appelle. Et Dieu qui l'appelle, vous allez me dire, la vocation de Marie, c'est quand Marie s'est présentée au temple. Non, non. Marie s'est présentée au temple pour se consacrer à Dieu. Et se livrant totalement au bon plaisir de Dieu, ne sachant pas ce que Dieu demanderait d'elle. Elle ne savait qu'une seule chose, c'est qu'elle devait se donner totalement à Dieu. Et je crois que c'est ce qu'elle a communiqué à Joseph. Mais il ne pouvait pas savoir autre chose. Donc la vocation de Marie et l'apparition et la vocation de Marie et ce mystère qu'elle sera la mère de Dieu se coïncident. C'est pour nous faire comprendre quelque chose, ça, quand même. Abraham, son lien avec Dieu, c'est sa vocation. Et ça se traduit dans l'obéissance. Puis, ce que Dieu réclame de lui, source de fécondité. seras une bénédiction. Je bénirai ceux que tu béniras, ceux qui te béniront. Et qui t'outragera, je le maudirai. Je te ferai devenir une grande nation. Il faut donc que ça se réalise. Dans le mystère de de l'Annonciation, il y a là quelque chose de très extraordinaire. C'est que la vocation de Marie et ce que Dieu attend d'elle ne font qu'un. Parce que sa maternité, c'est sa vocation. Je crois. Je crois que c'est sa vocation. C'est par là qu'elle entre dans l'intimité la plus grande avec Dieu. Qu'est-ce que c'est que la vocation de l'homme ? C'est relatif à Dieu. C'est être lié à Dieu. C'est ça la vocation, c'est être lié à Dieu. Une personne humaine, dans le sens biblique, n'est personne humaine que dans la mesure où elle découvre sa béatitude, c'est-à-dire qu'elle est reliée à Dieu. Et Marie est reliée à Dieu dans sa maternité divine. Et c'est pour ça que les deux sont liés. Tandis que pour Abraham, c'est pas la même chose. Avoir un fils, c'est merveilleux d'être père. Mais c'est pas sa vocation. Sa vocation, c'est d'être lié à Dieu et d'accomplir la volonté du Père, la volonté de Dieu. Tandis que Marie, sa maternité liée, je dis ça, voyez, pour ce fameux problème de la prédestination de Marie que se posent les théologiens, ils n'ont pas assez vu ça, ils n'ont pas assez regardé l'Écriture. La vocation de Marie, c'est d'être mère de Dieu. Ça, je crois qu'on ne peut pas nier. C'est sa vocation. C'est d'être mère de Dieu. Ce qui montre la grandeur de sa maternité. Sa maternité, comme dit saint Augustin, est contemplative. C'est pour ça, c'est sa vocation. Et sa maternité prend tout l'être de Marie. C'est pas une fonction, c'est pas quelque chose accidentel. Non, c'est toute sa vie, c'est toute elle-même. Elle est prise par là. Maternité contemplative. Et c'est là qu'on voit tout de suite la très grande différence. Abraham est au point de départ d'un grand développement, d'une grande croissance. Marie est au sommet. Il va y avoir une croissance dans la foi de Marie. Il va y avoir une croissance dans sa grâce. Mais elle est au sommet. Dans une immanence toujours plus grande que Marie va atteindre Dieu. C'est dans une intériorité toujours plus grande que Marie va atteindre le mystère de Dieu. Et qu'elle sera de plus en plus bénie de Dieu. Et de plus en plus unie à Dieu. Unie à son Père. Par son Fils. Et dans son Fils. Je crois que c'est peut-être cela qui nous aide à comprendre cette béatitude de la foi de Marie dans le mystère de l'Annonciation. Et ceci nous aide à comprendre ce que doit être pour nous cette béatitude de la foi. On doit être bien heureux dans notre foi, être contemplatif dans notre foi. Vous voyez bien que la vocation chrétienne, c'est premièrement une vocation contemplative. L'Ancien Testament, c'est bien la foi, mais c'est beaucoup plus l'obéissance en premier lieu. Et j'allais dire la dévotion. Tandis que dans la Nouvelle Alliance, c'est en premier lieu la contemplation. Recevoir le don que le Père fait de son Fils. C'est cela, la contemplation chrétienne. C'est de vivre de ce don. Et de comprendre que ce don nous est fait et que nous n'avons qu'à vivre de ce don. C'est toute notre vie. Et pour recevoir ce don, nous serons des serviteurs. La maternité implique un service, mais la maternité divine est infiniment plus qu'un service. Un service, c'est pas une vocation. Ça fait bien. Quand on vous demande un service, on vous dit pas « je te donne une nouvelle vocation, être cuisinier ». Non, c'est pas une vocation. C'est un service très important. Être bibliothécaire, c'est un service. Être prieur, c'est un service. C'est pas une vocation. C'est pas une vocation. Même d'être prieur général, c'est pas une vocation, heureusement. C'est un service. Ça ne modifie rien à notre contemplation. Ça l'encombre quelquefois, mais ça ne modifie rien à notre vocation. Notre vie, c'est une vie contemplative. Et ça doit être cela. C'est tellement important de comprendre ça. Marie vit du mystère de sa maternité comme une exigence de contemplation. Puisque c'est le Fils du Père qui lui est révélé et qui lui est donné. Et c'est ce qu'il y a d'unique dans cette maternité contemplative de Marie. Et la grandeur du service provient en conséquence. Demandez à l'Esprit Saint ce soir, et je crois que c'est ce qu'on doit demander avant tout, à l'Esprit Saint d'avoir sur Marie ce regard du Père et de demander à Marie de répondre comme elle. Dans un don total, dans la foi, l'espérance et l'amour, en comprenant que notre vocation est une vocation de contemplation.